Et si on partait sur Europe 1, tous les jours en direct entre 16h et 18h, je vous emmène pour un grand voyage, une grande respiration. Chaque jour, deux destinations en France et au bout du monde, juste pour rêver. C'est parti.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
À 17h tout à l'heure, je vous emmènerai au cœur de l'Afrique, l'Afrique des grands animaux, des éléphants, des lions, des girafes, mais aussi l'Afrique à grand spectacle, puisque nous irons au pays des chutes Victoria, les chutes d'eau parmi les plus impressionnantes de la planète. Imaginez le fleuve Zambèze qui tout entier se jette d'une falaise de 1,7 km de large sur 100 mètres de haut, c'est impressionnant. Nous irons donc au Zimbabwe. Et puis maintenant, tout de suite, dans une région qui a du caractère, une identité forte, le pays des cigognes et de la choucroute, du Parlement européen et de Strasbourg. Certains quartiers de cette ville sont classés au patrimoine mondial de l'humanité. C'est une très belle ville. Nous partons dans quelques secondes en Alsace. Avec tous mes amis voyageurs, et Dieu sait qu'ils ont déroulé du bitume.
Et du câble.
Nathalie Elal,
oui,
bonjour.
Bonjour à tous.
Nathalie Elal, auteure, grande voyageuse. Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique, bonjour.
Bonjour les amis, moi j'ai plutôt avalé des quantités de plats, voyez-vous.
Et quelques couleuvres.
Et quelques couleuvres parfois.
Jean-Bernard Carrier. Du guide Lonely Planet.
Ben moi, j'ai avalé beaucoup de miles en avion.
Ah oui, voilà. Vous devez être platinum, vous.
Non, parce que j'ai voyagé sur de multiples compagnies.
Ah, voilà. Pas fidèle.
Non, j'étais très infidèle au niveau aérien.
Alors l'Alsace, on précise un petit peu.
Oui, alors complètement, c'est vraiment à l'est du Grand Est, frontalier avec l'Allemagne, et à l'ouest, ça touche ma très très belle région, ma Lorraine évidemment, donc je connais aussi très bien l'Alsace, ce qui fait la frontière entre guillemets entre les deux régions.
C'est marrant, vous avez une capacité à ramener à peu près 80% des régions françaises à la Lorraine. C'est étonnant, hein.
Mais en fait, la Lorraine étant le centre de la France.
C'est une comparaison, vous voyez ce que je veux dire. Donc non, mais c'est vrai, j'avoue ce petit faible. Alors écoutez, quand même, il faut dire qu'entre l'Alsace et la Lorraine, il y a une petite chaîne de montagnes qu'on adore tous en France. Ben c'est les Vosges, voilà, qui séparent les deux régions. Il y a deux départements simplement en Alsace, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. C'est pas très grand, ça fait à peu près 200 km du nord au sud, voilà. Et comme voisin, je l'ai dit, il y a l'Allemagne et j'ai oublié quand même la Suisse juste en dessous.
D'accord, merci beaucoup. Ah, c'est frontalier avec la Suisse,
oui, c'est un petit morceau, un tout petit bout de Suisse, ouais, voilà, du côté de Mulhouse-Bâle, voilà.
Nathalie,
oui.
Les grands hommes et célébrités, et grandes femmes évidemment, d'Alsace.
Je vais commencer par l'officiel Fred Dreyfus, hein, qui a été victime d'une machination judiciaire. Alors, il est né à Mulhouse en 1859. Il a été, malgré lui, il faut bien le dire, au centre d'une crise politique majeure des débuts de la Troisième République, la célèbre affaire Dreyfus qui a divisé littéralement la France entre 1894 et 1906. Dans un autre registre, plus musical justement, le musicien et fabricant de piano Camille Pleyel, qui est né en décembre 1788 à Strasbourg, le fondateur de la célèbre salle parisienne de concert de 500 places qui porte son nom bien sûr. Et puis le fameux docteur Schweitzer, Albert de son petit nom. Alors c'est probablement
C'est parce que tout le monde connaît le docteur Schweitzer de nom, mais peu de gens savent qui c'était.
Exactement,
vraiment.
Exactement,
en fait.
C'est vrai. Alors justement, moi je vais vous le dire, c'est le premier médecin sans frontières de l'histoire, j'assume. Hein. Il est né à Kaisersberg en janvier 1875, il est mort au Gabon. C'est vraiment un personnage marquant du XXe siècle, il a été d'ailleurs prix Nobel de la paix en 1952. Et pourquoi tout cela? Parce qu'il a mené un combat contre le sous-développement et la maladie en Afrique. Nous avons ensuite la nageuse handisport Béatrice Hesse. Alors, elle est plus contemporaine. Hein. Elle est née en novembre 1961 à Colmar. Mais c'est surtout la deuxième athlète paralympique la plus titrée au cumul des médailles. Une vingtaine en or, hein, quand même, de toute l'histoire des Jeux paralympiques. Et puis, le talentueux comédien, metteur en scène et humoriste Alex Lutz, oui, connu notamment pour son personnage hilarant de Catherine, la secrétaire de rédaction folle dingue dans Catherine et Liliane sur Canal+.
Ah oui, Catherine est alsacienne.
Oui, absolument. Il est né à Strasbourg en 1978.
Très bien. Merci beaucoup, Nathalie. Olivier, la gastronomie alsacienne, vous êtes entraîné.
Hop là, yo.
C'est pas mal. Vous êtes entraîné à l'accent.
Mais il y a l'accent, hop là, ouais. Aussi, hein. Bah, la gastronomie alsacienne est aussi bonne qu'elle est compliquée à prononcer en réalité. Parce que là, accrochez-vous, j'espère que vous avez votre petit dictionnaire. Mon flammeux cuche, tout le monde connaît. Beckerhoff, on verra.
Beckerhoff, oui.
Ouais, on verra d'où ça vient. Les spätzle, le kugloff, évidemment.
Les spätzle, c'est une espèce de gros pain rond.
Ah,
là,
non, c'est des pâtes. Petites pâtes.
C'est de la nouille.
Ah mince.
Ouais, des petites nouilles qu'on fait. Bah, je vous donnerai la recette tout à l'heure et je vous expliquerai d'où ça vient, évidemment. Et puis le tout arrosé des incontournables vins d'Alsace. Là aussi, accrochez-vous pour les noms. Hein. Un Riesling Schlossberg ou de l'Altenberg de Bergbitten, si vous êtes capable de m'écrire ça, je vous en paye une bouteille. Voilà, une cuisine gourmande, variée, très traditionnelle aussi, mais très très attachante et délicieuse.
Très bien. Donc dans un instant commence notre grand voyage de l'Alsace jusqu'au Zimbabwe. C'est pas mal quand même comme parcours. Nous serons en direct dans quelques instants avec un pur Alsacien authentifié, certifié, l'acteur, réalisateur, scénariste Pascal Elbé. À tout de suite sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Tous les jours sur Europe 1, un grand voyage entre 16h et 18h. Tout à l'heure, après 17h, nous irons donc au Zimbabwe. Mais là, tout de suite, nous sommes en Alsace. Et pour nous guider sur cette terre extrêmement riche, avec une identité forte, un véritable Alsacien, certifié, authentifié, avec tous les labels. c'est l'acteur, réalisateur, scénariste que vous avez pu apercevoir dans... Bah, plus qu'apercevoir d'ailleurs, voir dans Brillantissime, dans Baron Noir, dans Just Gigolo. Nous accueillons avec plaisir Pascal Elbé. Bonjour Pascal.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Pascal, vous êtes originaire de Colmar, si mes infos sont bonnes. Vous avez passé toute votre enfance à Strasbourg, 15 années de votre vie. Les images d'enfance d'Alsace que vous avez, ce serait quoi ?
Il y en a plein, vous savez, c'est d'abord les images de l'enfance, avant même d'être les images d'une région. Mais j'allais vous dire, j'ai un souvenir, par exemple, de ma première visite dans vous connaissez la cathédrale de Strasbourg, ouais. Hein, qui est le monument emblématique de l'Alsace. Et de son, vous savez, il y a une très belle horloge astronomique animée. Et ça, c'était quelque chose ça me rappelait, plus tard, ça m'a rappelé Méliès, les frères Lumière, il y avait quelque chose d'assez magique dans cette animation. Ouais. Et après, je vous dirais, les excursions dans les Vosges, dans la forêt noire, ces grandes promenades. Et puis un peu plus tard, évidemment, la route des vins.
Plus tard.
Un peu plus tard, parce que ça, si vous voulez, c'est fait un peu, juste un peu après l'adolescence, pas avant, parce que sinon, je reste des ennuis.
Vous êtes toujours très attaché à cette région ?
Oui, je suis attaché comme quelqu'un qui a vécu. J'ai encore quelques amis, j'ai plus de famille là-bas, mais je suis attaché à cette région. D'abord parce que j'aime le bon vivre. Et c'est vrai que c'est une région où on mange très bien, on bouffe très bien. Quoi. Il y a des très bonnes tables. Et d'y aller, j'y vais encore une fois, sans doute une ou deux fois par an, parce qu'on va présenter des films là-bas. Et c'est vrai que c'est toujours l'occasion de s'arrêter. Il y a des très bonnes adresses culinaires. Donc c'est une région que oui, j'aime bien. Et puis j'aime bien le cœur de l'Alsacien. C'est quelqu'un qui peut être... un peu renfermé au départ, et puis quand il ouvre la porte, c'est une vraie porte ouverte, grande ouverte. Mmh. Oui, je suis assez attaché finalement. Oui, on découvre ça avec le temps, on revient sur son port d'attache.
Olivier ?
Vous parlez alsacien ?
Non, vous savez, vous n'avez pas l'alsacien pur jus non plus, hein. faut pas non plus, vous voyez ce que je veux dire, mes grands-parents sont pas vraiment nés entre Truchtersheim et Schiltigheim, vous voyez ce genre de noms qui étaient d'abord exotiques pour nous, puis après c'est nous qui avions des noms exotiques. Mais mais par contre il y a un attachement certain, c'est une région qui est assez riche, qui est assez belle à découvrir et qui mérite d'être découverte un peu mieux, je pense.
L'accent alsacien, vous savez le faire ou pas du tout?
Oui, de l'accent, je peux toujours vous le faire. Hein, quand vous disiez que c'était un accent un peu chantant, je suis en partie d'accord, mais c'est pas l'accent que je trouverais le plus glamour, vous comprenez ? Voilà, et vous savez, quand j'arrive souvent, comme c'est une région assez fière, quand j'arrivais souvent dans les salles de cinéma, je voulais faire le régional de l'étape, En arrivant dans la salle et en faisant un salut à l'alsacienne, vous savez, on dit salut Pissot, Meufikets, ça veut dire bonjour tout le monde, ça va. Et en général, je me suis pris toujours un bouillon avec un accueil assez glacial. Donc finalement, je suis redevenu le parisien. Vous voyez, c'est. Voilà.
Et il y a des expressions alsaciennes que vous aimez vraiment ?
Oh, il y a des expressions comme j'ai reçu mes 15 ans. Oui, ils reçoivent leur anniversaire. C'est la cigogne qui vous amène. Oui, j'ai reçu mes 15 ans. Voilà, ils reçoivent. Et sinon, moi, oui, il y a des expressions. c'est une façon assez comme ça, assez lente de parler parfois, mais je me rappelle d'une fois où j'étais engagé comme jeune stagiaire dans une entreprise d'électricité. Et il y avait mon supérieur qui m'avait dit, quand j'étais plus jeune, ça, vous savez, c'est le début des ordinateurs, et puis il voulait m'entraîner, voir. Il m'a dit, écoute, je vais te faire découvrir un computer. J'ai dit, pardon. Je lui ai dit, comment vous dites ? Un computer, voilà. Donc il y a des choses parfois, un pont entre deux cultures. Parfois, ça peut faire sourire. Non, je dirais que c'est comme l'accent québécois. C'est une jolie musique au début, et en fin de semaine, ça peut fatiguer.
Ça va faire plaisir aux Alsaciens qui nous écoutent.
Et aux Québécois.
comment vous décririez l'identité alsacienne ? Comment vous décririez l'Alsacien ?
L'Alsacien, c'est quelqu'un d'assez fier. Mais de sincère, de loyal. Je pense que c'est une région assez prospère. Il y a une forme de fierté souvent. Il y a une histoire un peu douloureuse, donc avec l'Allemagne. N'allez surtout pas parler de. Enfin, ne dites pas à un Alsacien qu'il est aussi allemand. Il est d'abord Alsacien. Et il y a une histoire un peu particulière. Mais je dirais que l'Alsacien est quelqu'un de sincère, de loyal. Et d'assez fidèle, ouais, ce qui est déjà pas mal.
Quand vous dites, ne dites pas un Alsacien qu'il est allemand, ça on comprend bien pourquoi, mais malgré tout, il y a une relation assez particulière avec l'Allemagne. Comment ça se passe exactement ?
Vous savez, il y a une frontalité, donc évidemment, mais c'est une partie de l'histoire qui a été quand même un peu douloureuse pour l'Alsacien qui le lundi était allemand, le mardi français, le mercredi alsacien, le jeudi de nouveau allemand. Donc c'était quelque chose, c'est un sujet assez épineux, mais aujourd'hui, avec le. Je pense qu'il y a, évidemment, il y a des jumelages dans les écoles. On allait souvent, nous, en Allemagne, parce que comme j'habitais à Strasbourg, j'étais à la frontière, dans une petite frontière qui s'appelle Kehl, une petite ville en Allemagne. On allait souvent passer nos week-ends là-bas. Et je dirais que, oui, on sent la proximité de germanique. C'est une ville protestante aussi, donc de toute façon, il y a une influence, mais... Après, je pense que c'est devenu aujourd'hui pleinement. On n'est pas au centre, comme vous le disiez gentiment tout à l'heure, de la France, mais on s'est rapproché évidemment beaucoup plus de la France que de l'Allemagne, je pense.
Oui.
Enfin, largement même.
Pascal Elbé, on continue avec vous à découvrir cette région absolument passionnante, une région extrêmement riche. Dans un tout petit instant, sur Europe 1, dans Et si on partait.
16h-18h, Et si on partait. Philippe Googler sur Europe 1.
Nous découvrons l'Alsace jusqu'à 17h sur Europe 1 en compagnie de Pascal Elbé qui est en ligne avec nous. Alors Pascal, s'il y avait des petits coins où vous nous emmèneriez là tout de suite, spontanément en Alsace pour qu'on les découvre absolument, ce serait où ?
Déjà de faire la route des vins vers Riquewihr qui est un village magnifique. Je vous dirais d'aller, évidemment, pour connaître la ville, d'aller vous promener du côté de la Petite France à Strasbourg, mais aussi du côté de la cathédrale. Et après, je vous dirais de vous promener dans la nature.
Excusez-moi, je vous interromps, mais c'est comment la Petite France ? Vous pouvez nous raconter, parce qu'on entend toujours parler de ce quartier, mais c'est bien de le décrire.
Alors c'est un quartier, vous savez, où c'est plein de Français, mais tout petits, qui se promènent dans la Petite France, un quartier très historique, avec ces maisons typiquement alsaciennes, avec des petites ruelles. C'est très moyenâgeux, donc c'est des ruelles étroites, et il y a des perspectives qui sont très belles. Et donc c'est vraiment un quartier historique, j'allais vous dire, il peut y avoir peut-être... Allez, je dirais à Paris, des micro-quartiers comme ça du Marais qui peuvent ressembler à la Petite France. Mais oui, c'est fait, il y a un cours d'eau, il y a les écluses. Ça, ouais. Franchement, c'est une belle promenade.
Tout ça en plein Strasbourg, en plein centre-ville.
Ah oui, en plein Strasbourg, à pied. À Strasbourg, de toute façon, ce qui est devenu une ville quasiment entièrement piétonnière, tout se fait à pied et tout est prêt.
Et aussi
voilà,
tout...
donc ça, c'est sympa.
Et c'est aussi, c'est aussi, Pascal, le paradis du vélo, parce qu'on se déplace beaucoup en vélo. Moi, je suis heureux quand je suis à Strasbourg.
C'est ça.
Ouais, c'est top.
Ah. Olivier ?
Strasbourg, c'est devenu cyclable, piéton. C'est une ville qui va devenir de plus en plus verte. Et à vélo, on peut traverser quasiment, on peut aller jusqu'à Colmar. Enfin, c'est ultra aménagé. Et c'est vrai que c'est une ville qui, comme son centre est assez restreint, mais en tout cas, c'est une ville qui se visite certainement plus à vélo ou à pied qu'en voiture.
Oui, c'est vrai que vous l'avez dit, la route des vins est sans doute une des bonnes façons de découvrir l'Alsace avec tous ses villages incroyables. Je pense à Kaisersberg, vous avez parlé de Riquewihr. Il faut s'arrêter à Colmar aussi, on parle peut-être un tout petit peu moins de Colmar que de Strasbourg. La petite Venise, effectivement, avec ses canaux, c'est magnifique.
Enfin, les petites Venises, il y en a à peu près 17 par pays. Ouais.
Oui, oui, c'est, vous savez, c'est comme, les, c'est comme ce qui est très connu à Strasbourg, c'est le marché de Noël qu'on appelle le Christkindlmarkt. Et oui, mais après, vous savez, quand vous visitez la France, vous vous rendez compte qu'il y a à peu près 200 marchés de Noël en France.
Oui, mais celui-là est plus authentique.
Mais, ils ont, mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont le même, ils ont en général les mêmes producteurs en Chine, donc ça va. Ça, vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez vous déplacer tranquillement en général.
Mais le vin chaud est meilleur plutôt... à Strasbourg.
Ah, le vin chaud est meilleur. Non, mais surtout, alors, s'il vous plaît, avant de parler du vin chaud, on n'est pas quand même à la montagne. On est surtout dans le Gewurztraminer. Ou dans, vous savez, c'est un très bon vin. On a du très bon vin meilleur. Il y a le Gewurz, je ne sais pas si vous connaissez, qui
Merci.
Est,
voilà, qui est un très, très bon vin. Un des quatre cépages nobles d'Alsace, hein, avec,
c'est ça, avec c'est ça. Riesling, donc, c'est un fait partie pour moi de mon, le Riesling, évidemment. Donc, on est, non, attendez.
On peut faire du vin chaud.
Vous avez parlé tout à l'heure de bouffer.
On peut gâcher.
Pardon.
Quand même,
hein. Non, non, parce qu'ils vont parler du vin chaud. Le vin chaud au Gewurz, je ne pensais pas.
C'est ça. C'est-à-dire que, voilà, la route des vins à vélo, je suis, du coup, là, en réfléchissant, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
Non, et puis il y a les fameux trois châteaux aussi qui sont absolument magnifiques.
Le Haut-Königsbourg.
Le Haut-Königsbourg. Et puis il faut monter jusqu'au ballon des Vosges. Et là, on est quand même dans une nature absolument incroyable. C'est très, très préservé, l'Alsace. C'est ça qui est fantastique.
C'est très préservé.
Et son architecture.
C'est la Corse
aussi.
Du Sud.
Comment est-ce qu'on fait bien la route des vins? Comment ça s'organise?
Avec un tire-bouchon.
Ben déjà, je pense que vous avez raison, c'est déjà un bon tire-bouchon. Je pense,
des béquilles.
D'abord des béquilles. Moi, j'aurais pris une brouette, parce que ça sert à plus vite. Mais ça s'organise, en fait, vous savez, c'est en fonction des producteurs que vous vous renseignez, et puis en fonction des cépages que vous avez envie de visiter, mais... Franchement, il faut se laisser balader, il faut se laisser promener, à moins d'être vraiment un spécialiste. C'est d'abord la région qui est belle, et vous parlez tout à l'heure du Haut-Königsbourg. Je me rappelle aussi, quand j'étais jeune, on allait visiter ce qu'on appelait la montagne des aigles.
Ah oui.
Voilà, à côté du Haut-Königsbourg, où il y a un élevage de faucons, d'aigles, il y a aussi la montagne des singes. Où il y a... c'est... Non, mais de toute façon, c'est un week-end en amoureux qui peut être très sympa d'aller à Strasbourg ou à Colmar, et en famille, aller se passer une semaine en Alsace et voir du pays et se promener, sans être forcément obligé d'aller goûter tous les vins, si on est en famille, hein, j'entends. C'est une destination qui est assez original, on est rarement déçu de l'Alsace.
Et alors, il y a le ballon d'Alsace, qui est aussi une espèce de monument. Vous pouvez nous raconter à quoi ça ressemble?
Alors, je ne sais pas du tout. Hein. Vous savez quoi, je n'ai jamais été au
vous
ballon d'Alsace.
Vous n'êtes jamais allé au ballon d'Alsace?
Non.
C'est le
non,
col.
Non, là,
c'est
je me rends compte que je me demande... J'ai fait un bilan assez amer de ma vie, là. Alors,
le col entre les Vosges et l'Alsace.
Je ne suis pas complètement passé à côté. Alors, c'est quoi, alors?
Ah, c'est terrible, c'est un événement en direct.
Si t'es pas allé au ballon d'Alsace avant 50 ans, t'as raté ta vie, Pascal.
Déjà que j'ai pas de Rolex, je suis dans la merde.
Bon, le ballon d'Alsace, pour décrire un petit peu, c'est une montagne toute ronde.
Oui, c'est très arrondi, c'est pour ça qu'on les appelle les ballons. Ouais. Et sur ces ballons, il y a ce qu'on appelle des chaumes ou des hautes chaumes. Alors, c'est pas vraiment des forêts, c'est des espèces de hautes herbes dans lesquelles on peut croiser une faune un peu particulière, parfois des lynx, parfois des tétras. Il y a un côté encore très sauvage au sommet de ces ballons. Voilà. Et une des vues, bien sûr, magnifique.
Voilà, comme ça, Pascal, vous pourrez briller dans les soirées quand on vous pose des questions.
Très bien. Ben, je me vois bien arriver dans une soirée à Paris en disant « Tu connais le ballon ?»« T'as jamais été au ballon d'Alsace, ça, c'est un truc de fou qu'il faut que tu fasses. »
Bien sûr. L'accent,
j'adore. La prochaine émission de télé que je vais faire, je vais arriver avec direct une photo du ballon. Avec un t-shirt, ballon d'Alsace, Uber Alles.
Merci beaucoup Pascal de nous avoir raconté votre Alsace, c'était super. Et vous avez déjà donné envie d'y aller. À très bientôt.
Écoutez, à bientôt à vous, merci.
Au revoir. Dans un tout petit instant, nous retrouverons les pépites de Nathalie Elal, les belles histoires qui se cachent dans les profondeurs de l'Alsace. À tout de suite sur Europe 1, après un petit Bachung, qui a d'ailleurs passé son enfance en Alsace. Sa mère s'est mariée peu après sa naissance avec Roger Bachung, qui était un boulanger alsacien. Voilà, comme ça, vous savez tout. Alain Bachung,
C'est plutôt ukrainien, ça.
La route des vins, elle est fatale.
Alain Bachung, Alsace Blues.
Europe 1, Philippe Googler.
Tous les jours sur Europe 1, nous voyageons, nous vagabondons, nous baguenaudons. D'abord en France, entre 16h et 17h. Là, nous sommes en Alsace. Et puis de 17h à 18h, nous partirons tout à l'heure pour un immense voyage au Zimbabwe. Pour l'heure, c'est donc l'Alsace qui est à l'honneur avec Nathalie Elal. Et bien sûr, Nathalie, impossible de parler de l'Alsace sans parler des cigognes.
Oui. Alors, effectivement, la cigogne, un oiseau sacré, même dans l'Égypte antique, parce qu'on en voit, figurez-vous, sur des fresques là-bas.
Ah oui.
Et en attaquer une, eh bien, était passible de mort sous l'Antiquité. C'est un oiseau qui est associé à beaucoup de légendes, et notamment à celle de la naissance, puisqu'on raconte un peu partout que la cigogne apporte les bébés dans son bec, oui, par la voie des airs aux heureux parents.
C'est vrai, c'est fou cette histoire.
Vous avez été apporté, vous aussi, par une cigogne?
Mais je ne sais pas, mais c'est ce qu'on m'a raconté, je vois pas pourquoi.
Croyez encore, oui. C'est une très ancienne légende. Elle est née au Moyen-Âge à Strasbourg et surtout elle est liée à la cathédrale. Parce qu'on raconte qu'il y a 1000 ans, la cathédrale de Strasbourg, elle aurait été bâtie sur un lac souterrain, hein, situé sous les piliers de la cathédrale. Un lac où vivaient les âmes des bébés à naître. On l'appelle ce lac le Kindlesbrunnen, c'est-à-dire le lac aux enfants, littéralement. Et puis alors un lutin, ou plutôt une espèce de gnome bienveillant, parcourait sa surface dans une barque, avec un filet avec des mailles d'or à la main, et il pêchait les âmes des bébés destinés à voir le jour, et puis ensuite, eh bien, il confiait l'enfant à la cigogne.
Oh,
l'oiseau prenait...
C'est compliqué quand même, toutes ces...
Bon, c'est une légende,
oui,
Philippe, comme toutes les légendes.
Mais pourquoi on ne raconte pas aux enfants, tout simplement,
Je pense qu'ils perdent assez vite le fil du truc. Quoi.
C'est pour changer un petit peu des histoires de garçons dans les choux et de filles dans les roses. Donc, cet oiseau prenait le bébé dans son long bec et puis allait le déposer dans le berceau préparé par les parents. Bien entendu, ce fameux lac n'existe pas, mais il y a quand même une part de vérité, comme dans toute légende, figurez-vous, parce que la cathédrale, elle a été construite directement au-dessus d'une nappe phréatique à l'aide de pilotis.
D'accord. Et alors pourquoi c'est une cigogne qui emmène le bébé et pas, je sais pas, un corbeau?
Ah oui, un corbeau, c'est charmant, je vois bien. Non, parce que c'est lié à la nature de la cigogne. C'est un oiseau migrateur, hein, connu pour partir en Afrique lors des grands froids parce qu'il n'y a plus rien à manger, et puis à revenir sur sa terre natale d'Alsace à la belle saison. Parce que le printemps, c'est synonyme de réveil de la nature, donc de naissance. Et puis aussi, il y a une légende chrétienne qui raconte que la cigogne aurait volé autour de Jésus lors de sa crucifixion. Donc c'est vraiment un symbole de résurrection et de fertilité à travers les âges. Ah. Et puis il y a une autre chose qu'on raconte aux jeunes enfants en Alsace, eh bien, on leur dit que pour avoir une petite sœur ou un petit frère, ils doivent absolument déposer un morceau de sucre qui est blanc comme la cigogne, sur le bord de la fenêtre de la maison. Et comme ça, bah, la cigogne, elle va livrer le bébé en échange. En fait, tout ça, c'est très pratique pour éluder la question de la sexualité. Tagada de soins de soins à expliquer, ouais, à ses enfants.
Tout ça pour tourner autour du pot.
Bah exactement, mais c'est plus qu'un pot, si vous voyez ce que je veux dire. Bon.
Alors, est-ce que vous avez d'autres oui, légendes merveilleuses,
oui,
comme,
oui,
ça?
Oui, j'en ai une. Alors, oui,
le bon roi d'Agobert a mis sa culotte à l'antenne. Ah. Le grand saint Éloi lui dit, oh mon roi, votre majesté est mal culottée. C'est vrai, lui dit le,
oui, alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a eu un Dagobert alsacien. En fait, il y a eu trois Dagobert, ah ouais, dans l'histoire de France en tout. Mais celui qui nous intéresse, c'est le Dagobert numéro 2.
Et c'est celui-là qui a mis sa culotte à l'envers?
Alors, probablement, on n'est pas sûr. Mais enfin, bon, il a régné, en tout cas, dans les années 600, hein, sur l'Austrasie, c'est-à-dire le royaume de l'Est, qui était un royaume franc à l'époque mérovingienne et dont l'Alsace faisait partie.
Et c'est quoi son histoire, alors?
Eh bien, il s'est fait salement spolier sa couronne par un ennemi de son père qui voulait placer son propre fils à la tête du royaume. Donc, on a exilé le pauvre Dagobert dans un cloître en Irlande quand il était jeune, en lui rasant le sommet du crâne. On lui a fait une tonsure. Ça voulait dire qu'il était moine et donc ça le privait de ses droits à la succession royale parce qu'on ne laissait pas un moine gouverner, évidemment, et monter sur le trône. Puis ensuite, on l'a même fait passer pour mort. Mais enfin, il s'en est quand même bien sorti. Il a réussi à revenir d'Irlande, à monter sur le trône pas bien longtemps. Hein. Il est mort assassiné en forêt de Veuvreux dans la Meuse, le pauvre Dagobert.
Mais alors quand est-ce qu'il a mis sa culotte à l'envers dans tout ça?
C'est pas vraiment une histoire de culotte, hein, ni de slip, ni de boxer, hein, excusez-moi. Parce que culotte, d'ailleurs, ça veut dire en vieux français les pantalons. Enfin, c'est pas si éloigné que ça, parce que Dagobert était myope et avait l'habitude, semble-t-il, de se prendre les pieds dans les tapis et de chuter un petit peu partout sous les regards médusés des témoins. Mais en fait, la chanson, plutôt la comptine, elle date pas du tout de cette époque.
Il prenait les pieds dans sa culotte.
Il était très maladroit. Il se prenait les pieds dans les tapis, pas dans sa culotte. Non, dans les tapis. Donc il tombait par terre. Bon. Et en fait, cette chanson, plutôt cette comptine, elle date pas du tout de l'époque parce que les couplets ont été écrits au fil du temps et certaines paroles datent de la période révolutionnaire et elles visaient plutôt l'infortuné Louis XVI parce que c'était quelqu'un qu'on voulait tourné en ridicule, on le trouvait nonchalant, indécis, donc on se moquait de lui grâce à cette chanson qui a ensuite servi pour d'autres, par exemple pour Louis XVIII lors de la Restauration, qui était considéré comme un incapable, et puis aussi pour Napoléon III.
C'est-à-dire on se moquait de différents rois avec une chanson sur Dagobert.
Exactement.
C'est un peu compliqué.
Ça visait, non, c'est pas compliqué, ça visait le roi Louis XVI puisque la chanson date apparemment de cette époque-là et donc on se moquait effectivement en parlant de Dagobert parce que c'était quand même pas très correct de parler de Louis XVI ni des autres.
Comme La Fontaine utilisait des animaux pour viser des personnages.
Exactement, c'est un peu ça. Merci Olivier.
OK. Vous avez des choses un petit peu plus républicaines à nous mettre sous la dent?
Oui.
Que Marianne était jolie quand elle marche dans les rues de Paris en chantant à pleine voix.
Ouais, notre Marianne, vous savez, la figure symbolique de la République française, l'icône de la liberté et de la démocratie, eh bien cette icône, figurez-vous qu'elle a une origine alsacienne. Parce que le premier modèle de Marianne, c'était une certaine Anne-Marie Moua, épouse d'un avocat célèbre, Jean-François Rebelle, qui a été président de l'Assemblée nationale après la chute de Robespierre. Donc c'était un couple originaire de Colmar. Ils se trouvent un jour à une réception chez Barras, qui est leur ami et accessoirement un homme clé de la Révolution. Et Barras, qui est un très galant homme et qui aime beaucoup les jolies femmes, trouve Madame Rebelle si parfaite qu'il propose de baptiser la République française de son prénom. Elle s'appelait donc Anne-Marie, mais lui, il a préféré Marie et Anne, qui étaient les deux prénoms français les plus répandu au XVIIIe siècle dans les milieux populaires.
Ah, ok. Eh bien, dis donc, d'histoire sur l'Alsace. Merci beaucoup, ma chère Nathalie.
Excusez-moi, par Marianne. Hein.
J'étais troublé par votre histoire de Marianne et j'ai oublié le prénom. Je deviens
vous
fou.
Voulez la proposer comme prochaine illustration de Marianne?
Le buste seulement.
Le buste.
Excusez-moi. Je suis ailleurs. Dans un petit instant, Olivier Pouls, qui va nous parler de la bonne cuisine alsacienne avec plein de noms très compliqués.
16h, 18h, et si on partait? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait? Nous voyageons en Alsace jusqu'à 17h sur Europe 1. Après, nous partirons au Zimbabwe. Olivier, alors, côté gastronomie, c'est une terre bénie, l'Alsace, pour
évidemment,
vous.
Évidemment, et on ne sait pas où donner
vous êtes
de la fourchette.
Comme un pape.
Évidemment, parce qu'il y a du solide et du liquide,
mais
vous
oui.
allez voir. Et puis tout ça se combine à merveille. Alors l'Alsace, évidemment, immanquable choucroute,
oui.
ou une version que moi j'aime beaucoup, qu'on appelle la navroute. Et on remplace en fait le chou par du navet.
La navroute,
ouais. Et on traite le navet de la même manière, c'est-à-dire qu'il est fermenté et il est accompagné de la même, des mêmes garnitures qu'une choucroute. C'est un petit peu plus doux, c'est différent.
Ouais. Et si on mange son banquier, c'est une banqueroute.
Oui, c'est ça. Vous pouvez toujours essayer. Mais moi j'aime beaucoup la navroute. Alors, il faut savoir que la choucroute n'est pas originaire d'Alsace. C'est un plat aujourd'hui très emblématique de la région, mais il est originaire de bien plus loin que ça. On pense même qu'il serait originaire, que la choucroute serait originaire de Chine,
ah bon
venu avec les conquêtes de l'Est et petit à petit se rapprochant, envahissant, si on peut dire, toute l'Europe de l'Est et arrivant jusqu'en Alsace où elle s'est bien installée. On cultive le chou là-bas et le chou nouveau, lorsqu'il est cultivé, ensuite fermenté et présenté en choucroute, c'est un vrai grand moment. Le foie gras aussi, par exemple, une grande terre de foie gras, l'Alsace, c'est surtout du foie gras d'oie. Ce qui est beaucoup plus rare dans le sud-ouest, par exemple. Donc, à la période de Noël, on mange de délicieux foie gras d'oie en Alsace. Et puis, évidemment, tous ces plats familiaux au nom souvent un peu imprononçable.
Alors, allez-y,
moi,
on
y en
vous
a
attend
que j'aime
au
beaucoup,
tournant.
C'est le bake-off.
Pas mal.
Bekov, ouais. Qui veut dire le four du boulanger. Alors, c'est ces plats traditionnels de village. Mmh. En fait, la ménagère utilisait un plat en grès dans lequel elle mettait différentes viandes, un peu de légumes, du vin blanc. Et à la fin de la cuisson du pain, quand le boulanger en avait terminé avec son four, on apportait le plat et on mettait le plat dans le four qui commençait à baisser en température, puisque la cuisson du pain était terminée. Et on profitait de la chaleur résiduelle qui restait dans le four.
De la chaleur gratuite.
Voilà, exactement. On allait travailler, quand on rentrait du boulot, bah, le plat, il avait mijoté pendant quelques heures, ça. Il était cuit, il était confit, on le récupérait et on allait le manger. Ça, c'est le bake-off. Moi, j'adore, là, je suis un fou de tarte flambée, la fameuse flammekuche.
Oui.
Ah, ça, c'est merveilleux quand vous avez une bonne flammekuche, une pâte à pain très fine.
Alors, la flammekuche, c'est vraiment d'Alsace, parce qu'on en mange dans le Nord aussi.
Oui, des tartes flambées ou des variantes. On en mange en Allemagne aussi, on va dire, dans toute cette grande région. Ouais. Mais la flammekuche, qui est d'ailleurs assez cousine lointaine de la Lorraine,
oui,
puisqu'on
dire,
retrouve un peu les mêmes ingrédients. Il n'y a pas l'œuf dedans, mais l'esprit est un peu le
pizza.
Même. Oui, alors ça, c'est plutôt côté italien, mais c'est la pizza alsacienne.
C'est
la
pizza germanique, en fait.
C'est une invention assez récente, hein, d'ailleurs.
Oui, oui, tout à fait. Oui, très probablement, puisque c'est de la pâte à pain non levée. Et on remplace la sauce tomate de la pizza. Alors, moi, je fais un mélange fromage blanc et crème fraîche, pas que ce soit trop lourd. Un peu de lardon, évidemment des oignons coupés finement, et il faut la cuire dans un four extrêmement chaud. C'est ça qui est le secret, parce qu'il faut que tout de suite cette pâte se mette à croustiller, et puis vous allez des petits blop 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 de fromage blanc qui viennent au-dessus, on la mange en se brûlant légèrement les doigts avec un verre de
vous décrivez super bien. Ouais,
c'est
vous pouvez refaire le blop 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 parce qu'on le voit.
Oui, les petits blop 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 au-dessus.
Mais avec l'accent, ça donne quoi
blop 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 blop. Les spätzle, je vous en parlais tout à l'heure, ça aussi c'est fantastique, des petites pâtes en réalité qu'on fabrique en famille avec des pâtes aux œufs et on étire la pâte, on en fait des filaments, on les coupe régulièrement tous les 3-4 cm, on les plonge dans l'eau pour une première cuisson et ensuite on les fait rissoler dans du beurre de manière à les faire croustiller. Ça, c'est un accompagnement incontournable. Puis moi, j'ai un grand souvenir de coco roasting aussi.
Ah.
Manger dans la famille Faller, qui sont des producteurs de vin absolument remarquables, et l'une des spécialités, c'était le coq au vin, mais au vin alsacien, donc au Riesling, une pure merveille. Et puis des souvenirs aussi de cuisses de grenouille, notamment grande spécialité d'un restaurant qui fut longtemps l'un des emblèmes de la gastronomie alsacienne, le Breisel à Strasbourg. On peut toujours manger ce plat là-bas. Le fils Eric Westermann continue à faire ses cuisses de grenouille aux saveurs vraiment remarquable.
Alors, est-ce qu'on mange un petit peu tout ça ? Vous avez des petits tuyaux ?
C'est les Windstube. En Alsace, vous allez trouver. C'est le nom des bistrots, de petits restaurants. Windstube, en fait, c'est là aussi, ça veut dire quelque chose. Vin, ça veut dire vin. Et Stube, c'était la pièce chauffée dans les maisons traditionnelles alsaciennes. Donc, c'était l'endroit où on allait se réchauffer, boire un peu de vin.
On est bien.
On est bien. On va discuter entre copains. Et là-bas, si vous êtes. On en parlait avec Jean-Bernard tout à l'heure. Si vous êtes familier, un habitué, c'est vrai, vous avez droit au Stammtisch.
Le
Stammtisch, c'est la table qui est réservée aux habitués, justement. Et on fait un Stammtisch, c'est se retrouver entre copains, casser la croûte, boire un verre.
Donc si on a un Stammtisch, ça veut dire qu'on est bien vu.
Ah oui, si vous avez un Stammtisch.
C'est un peu votre ronde serviette, en fait, qui est là, qui vous attend. Et
vous en avez plusieurs en Alsace?
Non, j'en ai pas, mais si j'habitais sur place, j'en aurais sans doute un, parce qu'on aurait
tous notre
nos adresses d'habitués, en fait, c'est ça. C'est
bien
génial.
Sûr. Et les Windstube, on en trouve évidemment un petit peu partout. Et à l'origine, c'est des lieux qui avaient été créés pour écouler une partie de la production des vins. Et ça a démarré à Strasbourg. Et maintenant, dans tous les villages alsaciens, vous allez trouver une Windstube.
Le vin ?
Incontournable. Alors, il n'y a pas toujours eu une bonne réputation, le vin d'Alsace, parce que on l'a longtemps considéré qu'il donnait mal à la tête, qu'il était trop sucré.
Trop soufré aussi.
Ça a été vrai, il faut le reconnaître. Il y a énormément de progrès qui ont été faits ces dernières années, et notamment, il y a une dynamique qui va vers des vins plus secs que ce que l'Alsace a produit, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les vins sucrés sont plus vraiment à la mode, donc on recherche plus de minéralité, comme on aime dire aujourd'hui, de tension dans les vins. Il faut savoir qu'il y a quatre grands cépages nobles en Alsace. Le Riesling, on a parlé du Gewürztraminer, le Pinot, qui était appelé avant le Tokay, et le Muscat. On trouve aussi du Pinot Noir, 51 grands crus, aux noms tous plus imprononçables les uns que les autres.
Un petit pour nous ?
Je ne sais pas, vous voulez le Schlossberg, l'Altenberg de Bergbitten, le Burg
C'est tellement agréable à entendre.
Le Rottenberg,
encore. C'est meilleur à déguster.
Il y en a 51 si on a un peu de temps.
Merci beaucoup, Olivier. Dans un tout petit instant, tous les bons tuyaux de Jean-Bernard Carrier du Guide Lonely Planet pour découvrir l'Alsace. À tout de suite sur Europe 1.
Et si on partait tout l'été, Philippe Googler vous fait voyager sur Europe 1.
Tout à l'heure, à partir de 17h, prenez votre souffle car nous partirons au pays des animaux sauvages, du lion, du rhinocéros, de l'hippopotame, de la girafe. Nous irons au Zimbabwe dans les grands parcs magnifiques. Et c'est aussi le pays de l'éléphant. Il y a des centaines et des centaines, voire des milliers d'éléphants là-bas. On en parlera tout à l'heure à partir de 17h. Pour l'heure, nous sommes en Alsace et nous allons, avec Jean-Bernard Carrier, découvrir comment explorer au mieux cette région. Alors, comment vous l'attaquez, l'Alsace, vous ?
Bah, je l'attaque par la célèbre route des vins, l'a suggéré Pascal Elbé. Il a bien raison de l'avoir mentionné, cette route des vins, qui fait 170 km du nord au sud. Donc, c'est vraiment une route qui longe le piémont vosgien. La porte d'entrée, c'est la ville de Marlenheim, ça reste prononçable. Et on sort à Thann, tout en bas des Vosges. Alors, c'est quoi cette route des vins ? Bah, c'est un peu l'image de l'Alsace heureuse, celle des vieux bourgs fortifiés, des cascades de géraniums qui dévalent des colombages, des châteaux romantiques, des forêts profondes, de la couleur rose du grès, et puis sa fameuse auberge, son chichi, où on sert de cette fameuse flamme curieuse dont vous avez parlé, Olivier, dans un décor de boissons qui semble inchangé depuis des décennies. Celle aussi, bien sûr, des opulentes maisons de vignerons avec leurs caveaux de dégustation. Alors, il y a des étapes grandioses à ne pas manquer. Ces fameux villages de poupées qu'on adore, Kaisersberg, Riquewihr, Pascal Elbé les a mentionnés, donc je ne vais pas revenir dessus. Bien sûr, Colmar également. Mais la halte que je préfère, notez-la bien, c'est Eggisheim. Ça reste prononçable encore jusqu'à présent. Le village d'Eggisheim, une jolie cité médiévale, mais elle n'est pas comme les autres, parce que ses ruelles pavées, tenez-vous bien au niveau architectural, ces ruelles pavées s'enroulent comme un ruban autour du centre ancien. En fait, c'est des rues concentriques. C'est vraiment exceptionnel, niveau architectural.
Ah bah ça donne envie. Et c'est bien ce qu'on se rend compte, c'est que la route des vins, c'est pas que la route pour picoler.
Ah non,
c'est la route de la très joli
patrimoine.
Voilà,
du patrimoine.
Oui, mais je fais une petite parenthèse. Ce qui est fantastique en Alsace, c'est que si on veut goûter du vin, acheter du vin, on peut encore le faire. Il y a beaucoup de vignobles aujourd'hui qui sont un peu fermés. Il y a un sens de l'accueil. Vous serez bien reçu. Vous pourrez goûter. Vous pourrez
comme ça, sans rendez-vous,
goûter.
On arrive.
Alors, c'est pas très poli, mais c'est presque faisable. Mais un petit coup de téléphone, vous prévenez et vous serez accueilli. Vous goûterez tous les vins. Vous serez sous le charme.
Et aussi beaucoup de vignerons qui ont des chambres d'hôtes, d'ailleurs.
Oui. Voilà.
Et un autre petit village que vous nous conseilleriez sur cette route ?
L'autre village à pas manquer, pour moi, je l'adore. Je suis assez Turckheim. C'est aussi très coquet, ce village typiquement alsacien. Mais ce qui fait que cette cité ne ressemble à aucune autre, c'est son veilleur de nuit, figurez-vous. Ah. Ça aussi, ça fait partie de la tradition. Tous les jours, du 1er mai au 31 octobre, donc cette année, ça fonctionne, Covid ou pas, à 22h pétante, on se croirait au Moyen-Âge et le veilleur de nuit qui passe dans les rues. Alors, à l'époque, le veilleur de nuit, il annonçait les heures de la nuit et il voulait s'assurer qu'aucune chandelle ne restait allumée pour éviter les risques d'incendie.
Ah oui.
Cette tradition a été remise au goût du jour depuis 50 ans à Turckheim et pendant 1h30, vous êtes en compagnie de ce veilleur de nuit. Il vous guide à travers les rues du village en plusieurs stations. Il chante, il explique le village, les monuments, les traditions et il est vêtu d'une tenue traditionnelle avec un chapeau tricorne, une hallebarde, un corps et une lanterne. Et en plus, c'est une activité gratuite.
Il suffit d'être
tous les jours à 22h.
Voilà, au bon endroit.
Départ de la Grand Place.
D'accord.
Voilà, je vous ai tout dit là, sur Turckheim.
La meilleure saison pour la route des vins ?
Le meilleur moment, évidemment, c'est le mois de septembre, parce que les journées sont encore belles et longues. Mais j'ai aussi une préférence pour octobre, début novembre, quand les vignes se mettent à tirer un petit peu sur le roux, Olivier, vous voyez ce que je veux dire ?
Septembre, c'est les vendanges, et les vignerons sont moins disponibles.
Et sont moins disponibles. Et là, les vendanges aussi. Alors, l'ambiance vendange est quand même géniale, ça donne à la région une atmosphère bien particulière. C'est vraiment la saison du vin et des fêtes également. Voilà, septembre, octobre, essayez de caler votre voyage à ce moment. C'est bientôt, hein ?
C'est bientôt, c'est bientôt.
On commence à prendre ses réservations.
Si on parlait un petit peu de ce fameux ballon d'Alsace.
Alors, le ballon d'Alsace, 1247 mètres d'altitude, on y accède facilement en voiture. On y va pourquoi ? Pour profiter du panorama grandiose sur les Vosges, sur la plaine d'Alsace, le Jura et les Alpes. Mais j'ai envie de vous emmener de manière un peu différente dans ce ballon d'Alsace. Moi, je vous propose une nuitée en bivouac pour profiter des belles lumières rasantes du soir et du petit matin. Et figurez-vous, c'est un accompagnateur en moyenne montagne qui s'appelle Olivier Paul. Je vous assure que c'est vrai, il s'appelle Olivier Paul et non pas Olivier Pouls.
C'est son jumeau sort.
Voilà, donc il propose une formule bivouac. On s'installe dans des hamacs le soir, sous une toile de tente. On allume un feu, on déguste une fondue. On écoute les histoires d'Olivier sur la vie de la moyenne montagne. Le lendemain aux aurores,
clou du spectacle, sur ces fameuses hautes chaumes, ces prairies d'altitude, on observe un troupeau de chamois qui batifolent dans les herbes. Voilà.
Ça, c'est des chamois en
Alsace. Il y a des chamois
au ballon d'Alsace, de la route des vins,
au ballon d'Alsace, dans les hautes chaumes, sans vin du tout.
Voilà. C'est dingue. Et d'autres expériences insolites comme ça amenées en Alsace.
Alors cette fois-ci, on va prendre tout le nord, on remonte le nord, on va dans les Vosges du Nord, et cette fois-ci, on va faire de la sylvothérapie.
Ah, je connais ça.
La
c'est
grande
super.
Tendance hein, en ce moment, c'est vraiment la mode. Ça s'appelle faire un bain de forêt, un retour aux sources. On a tous besoin de ça en ce moment. Dans la forêt de la Petite Pierre, il y a une animatrice qui propose ça, une balade d'environ 2 heures. On fait différents arrêts avec des exercices de respiration. On travaille sur les ressentis, la conscience, de conscience de soi. Et on touche, on embrasse les arbres. Il paraît que ça fait beaucoup de bien.
Non, mais ça a l'air idiot comme ça, mais je vous assure, j'ai essayé.
Ben,
vous restez 20 minutes avec, en embrassant, serrant dans vos bras un arbre. Mm-hmm. Ben, je ne sais pas, les pieds nus. Avec les
pieds nus, voilà,
pieds nus pour être au contact de la
exactement,
terre.
Et
ça fait un bien fou.
Voilà. Et il y a des hêtres, des chênes, des conifères. Et en plus, la forêt de la Petite Pierre, elle est chargée d'une très forte énergie. C'est une forêt domaniale qui est sublime. Voilà.
Puis quand vous avez les fourmis qui commencent à vous passer entre les orteils, vous êtes sûr que vous êtes en contact de la terre.
Non, c'est une façon d'être ancré dans le sol alsacien.
Merci beaucoup Jean-Bernard Carrier pour tous ces bons conseils. Dans un tout petit instant, après le flash de 17h sur Europe 1, un sacré voyage. Nous irons donc retrouver les éléphants, les rhinos, mais aussi parmi les plus célèbres chutes d'eau du monde, les chutes du fleuve Zambèze, qui se précipitent d'une falaise de 100 mètres de haut. Et puis, il y aura également des découvertes assez improbables avec la puissance cachée des babouins. Vous verrez, je vous révélerai ça tout à l'heure. Dans un instant, donc, le Zimbabwe sur Europe 1. À tout à l'heure. Vous êtes sur Europe 1. Il est 17h, les infos, Théo Manval.
H-4 avant un match pour l'histoire pour le Paris Saint-Germain. Demi-finale de Ligue des Champions face au RB Leipzig à 21h. Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria devraient mener l'attaque parisienne face au troisième du dernier championnat allemand. C'est un match à suivre et une soirée spéciale sur Europe 1 à partir de 20h avec Lionel Rosso et nos deux envoyés spéciaux au Stade de la Luce. Il va falloir ajouter un masque à votre liste de courses pour la rentrée. Masque désormais obligatoire en entreprise d'ici la fin du mois, y compris lorsque vous êtes à votre bureau en open space. C'est ce qu'a confirmé cet après-midi le ministère du Travail. Il faudra aussi le porter, ce masque, dans les couloirs, les vestiaires ou en salle de réunion. Mais leur coût d'achat sera de la responsabilité des entreprises, indique Elisabeth Borne. Et face aux chiffres de circulation du virus qui repartent à la hausse, il n'y aura plus de dérogation pour le Puy du Fou pour accueillir plus de 5000 personnes à la fois dans son spectacle en plein air. La préfecture de Vendée estime que la situation sanitaire s'est trop dégradée. Par ailleurs, dans l'Oise, le port du masque est désormais obligatoire partout jusqu'au 7 septembre inclus. Christophe Girard dénonce des allégations graves et sans fondement. Le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête pour viol à son encontre après le témoignage dans le journal américain du New York Times d'un homme disant avoir été abusé pendant 10 ans lorsqu'il était à son service. La justice va tenter de savoir si les faits sont avérés et si c'était le cas, s'ils sont couverts par la prescription. Au Liban, le Premier ministre Saad Hariri accepte la décision du tribunal spécial qui acquitte 3 membres du Hezbollah, déclarés non coupables de l'assassinat de son père Rafik en 2005. Un 4e membre du groupe chiite, le principal suspect, a lui été condamné en son absence après 6 ans de procès. Sa peine n'est pas encore connue. Les autorités de l'île Maurice annoncent avoir arrêté le capitaine et un membre de l'équipage du navire japonais qui s'est échoué sur un récif à la fin du mois de juillet et provoqué une marée noire qui a souillé les côtes en pleine zone protégés. Les deux hommes ont demandé leur libération sous caution, ce qui leur a été refusé. Une saisie record de cannabis ce matin près de Nîmes, dans le Gard, 500 pieds qui mesuraient jusqu'à 3 mètres de haut. Une vraie forêt, selon la description des gendarmes. Ils étaient cachés en bordure d'autoroute, sur une aire habitée par des gens du voyage. Il aura fallu une pelleteuse pour détruire la plantation. Un couple est en garde à vue. Et puis on boucle la boucle en football. La défaite 8-2 face au Bayern Munich en Ligue des Champions a laissé des traces à Barcelone. Après l'entraîneur du Barça, Quique Setién, c'est autour de l'ancien défenseur français Eric Abidal d'être limogé de son poste de directeur sportif. 17h03 sur Europe 1. Et si on partait la deuxième heure, c'est avec vous Philippe Googler.
Merci Théo Manval. L'info revient tout à l'heure à 18h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nos escapades continuent tout de suite en toute sérénité avec Shiva, ménage et repassage à domicile.
Et si on partait, c'est toujours l'été, le moment parfait pour lâcher prise. Tous les après-midi sur Europe 1, un grand voyage vous emmène dans les plus beaux endroits de la planète. Nous partons maintenant pour l'Afrique, au Zimbabwe. Décollage maintenant.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait, Philippe Googler.
Nous sommes très très loin en Afrique, au Zimbabwe. Alors après ce bon bain frais dans le Zambèze au ras des chutes Victoria, je suis sûr que j'en frémis encore, j'ai eu vraiment très peur ce jour-là. Mon cher Jean-Bernard Carrier, alors le Zimbabwe, on va resituer un petit peu les choses quand même.
Ouais, alors Zimbabwe, c'est juste pour le Calais, c'est juste au nord de l'Afrique du Sud. Donc ça touche l'Afrique du Sud, donc c'est tout au sud du continent africain. Ouais. Il n'y a pas de vol direct, il faudra passer par Johannesburg en principe pour vous y rendre. Pays enclavé, ça veut dire qu'il n'y a pas de façade maritime, mais vous l'avez dit, il y a ce fleuve Zambèze, ces chutes Victoria, et puis un lac, le lac Kariba, donc il y a quand même de l'élément liquide qui est présent. Pas de grosses montagnes du côté de ce Zimbabwe, c'est plutôt d'un paysage de plateau entre 900 et 1700 mètres, ça veut dire bon climat, il ne fait jamais trop chaud, important de le dire. Et au niveau surface, pour situer un petit peu la superficie, 390 000 km², c'est un peu plus grand que la Belgique et moins grand que la France, entre les deux. Voilà. Donc un pays dans lequel on circule assez facilement.
Et puis c'est le pays d'une réserve naturelle absolument immense, c'est le pays des éléphants, c'est un des pays où il y a le plus d'éléphants au monde.
C'est le pays des safaris.
C'est le pays des safaris. Nous sommes en ligne avec Perrine Crosmary. Elle est réalisatrice. Je recommence. Nous sommes en ligne avec Perrine Crosmary. Elle est réalisatrice de documentaires animaliers, présidente de l'association HISA, ISA, qui œuvre pour la protection des animaux sauvages. Perrine, qui est allée vivre dans la brousse au Zimbabwe avec toute sa petite famille, une vraie maison dans la brousse au cœur d'une réserve immense, la réserve Wangé, pendant 3 ans. Bonjour Perrine.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ah, je vais très bien, j'ai rêvé là en écoutant tout le récit sur le Zambèze, j'y étais de nouveau. Hein.
c'est incroyable cet endroit.
Ah oui, moi vraiment, j'y suis allée plusieurs fois, à plusieurs reprises, et effectivement, j'ai ressenti les mêmes choses, hein, avec ce côté quelque part monstrueux de cette chute vertigineuse qui est quasiment vivante. Hein, on a l'impression que c'est un être vivant. Ouais. Et en même temps, impressionnant, donc un côté monstrueux, parce qu'on a une sensation d'être face à, je sais pas, oui, un monstre qui gronde et à un orage puissant. C'est hypnotique et à la fois ça nous envoûte. Moi j'adore.
Est-ce que vous êtes baigné au ras des chutes ?
Alors j'ai pas fait ça.
Il faut connaître le petit coin. C'est pas facile d'accès.
Je l'ai vu ce petit coin. Mais moi en fait ce que j'ai aimé c'est la partie effectivement je vois tout à fait où est l'île. Ouais. Cette île et je vois effectivement où c'était, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que je pensais qu'on pouvait le faire que du côté zambien. Ouais. Donc voilà.
Ouais, parce que ça fait la frontière, il faut le dire, avec la Zambie, hein, les chutes également. Jean-Bernard, vous voulez...
Je veux dire qu'en fait, les chutes Victoria, pour les situer, c'est 2 fois la taille en hauteur des chutes du Niagara. On parle souvent des chutes du Niagara, c'est 2 fois les chutes du Niagara.
Tout à fait. Voilà. On parle trop des chutes du Niagara, il y a bien mieux.
Pas en hauteur, en longueur, en largeur.
Il me semble que c'est en hauteur aussi, ça fait plus de 100 mètres et les chutes du Niagara ne font pas cette taille-là, mon cher Olivier. Ça, j'en suis quasi sûr. On vérifiera après.
C'est pour le quiz.
Ma chère Perrine, vous avez vécu donc dans la brousse au Zimbabwe avec, avec un enfant. Vous aviez un jeune fils qui avait, je crois, 3-4 ans, 4-5 ans.
Oui, c'est ça. En fait, c'était une grande première pour le projet. On était au cœur du parc de Wangé, on venait en famille, donc il y a eu des discussions à ce sujet-là. Parce que c'est la première fois qu'une famille venait au cœur de la brousse. Donc, quand je dis au cœur de la brousse, on vivait vraiment loin de tout, des grandes villes, des hôpitaux.
Ça veut dire que votre enfant, quand il se levait, il allait gambader au milieu des lions et des éléphants ?
C'est ça, hein, vraiment. Le matin, par exemple, alors on a vécu à 2 endroits différents. Soit au cœur de la brousse où le matin on faisait 25 km pour aller à l'école, pour l'amener à l'école, et alors c'était génial parce que on était arrêté par hop un troupeau de buffles, après on s'arrêtait, c'était des gnous, et donc il arrivait toujours en retard à l'école pour le coup.
Pour cause de balai, les embouteillages.
C'était classique, voilà. Et après, on a vécu aux portes du parc. Et là, on était là, il fallait vérifier parfois parce que le parc, en fait, on vivait dans ça s'appelle toujours Main Camp, hein, donc c'est l'entrée du parc. Et il y a des animaux comme dans le parc. Hein, on est au cœur de la brousse et on avait la visite d'animaux sauvages. Les girafes dormaient juste à côté de notre maison. Les hyènes passaient dans le jardin et parfois les lions. Et donc le matin. Au petit matin, regardez s'il n'y avait pas des traces justement devant la maison, parce que des lions pouvaient être dans le coin. Hein, vraiment.
Mais c'est pas dangereux pour les enfants d'avoir des lions qui passent dans le jardin ?
Alors, comment dire, c'est très étrange parce qu'au départ, on fait attention et ensuite, on voit que les gens vivent comme ça, qu'il n'y a pas d'accident. Alors, ça arrive, hein, bien sûr, on raconte toujours, il y a toujours ces espèces de légendes avec un enfant qui a été dévoré par un léopard autour d'un feu de camp. Alors, ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Nous, on faisait très attention et en même temps, on ne pouvait pas tout gérer parce qu'il vivait vraiment dans le village. Donc, à 8 heures, on le déposait. Dans le village
pour l'école. Vous le meniez, voilà. D'accord.
Et ensuite, à 18h, on venait le récupérer. Et ensuite, on allait voir les éléphants. Enfin bon, bref, on était sans arrêt, de toute façon, connectés à la nature et aux animaux et aux villageois. Et donc, on ne savait pas trop ce qui se passait dans la journée. Et c'était drôle parce que souvent, bah, il nous racontait des choses, qu'il avait vu des babouins qui passaient dans le campement, qu'il avait mangé... bon, alors les gens là-bas mangent de la viande de brousse et il a mangé l'éléphant. Alors aujourd'hui, il ne s'en rappelle plus, mais moi, je ne le savais pas.
Il a mangé de l'éléphant, votre enfant ?
Oui, de la trompe d'éléphant. Oui.
Oh, ça se mange, c'est bon ça.
J'en sais rien.
Olivier Pouls, spécialiste.
J'ai jamais goûté, mais ça me tente pas trop. Hein.
C'est comment ça? C'est quel, ça doit être gélatineux, ça doit être...
Non, ça, enfin pour la trompe, vu que c'est plein de muscles.
C'est fibreux,
c'est plus nerveux et musculeux, je dirais, pour la trompe. Oui. C'est pas forcément, je pense, hein, de ce qu'on m'a dit, le meilleur morceau. Mais bon.
Ça ne nous surprend pas trop.
Bon, non, mais c'est bon à savoir, parce que des fois, on hésite.
Oui,
on est chez le boucher.
Ça.
On est
de la tronche ou pas. Et prendre une côte de bœuf, finalement.
Voilà, enfin, c'est des aventures comme ça que mon fils a vécu, à manger des termites, à être vraiment, vraiment ben avec... oui, c'est assez fou.
Et qu'est-ce que ça... Il a grandi depuis? Ça l'a changé?
Il a des défenses qui ont poussé.
Non, mais ça l'a changé complètement, en fait.
Il s'appelle Indiana.
Tout le monde l'appelait Kirikou ou Mowgli parce que il parlait la langue, le ndébélé, hein, avec les clics. Donc nous, on se rendait pas compte parce qu'on le laissait dans le village, on le récupérait le soir. Et il avait c'était un enfant qui vivait avec les gens sur place et avec les animaux. Il a été transformé. Mon fils aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que quand on est parti du Zimbabwe, on est allé au Canada et il sortait de l'école pieds nus au Canada. il avait une manière de vivre qui ne correspondait absolument pas aux critères de vie de la société normale.
Et maintenant,
normale.
Il a quel âge et ça donne quoi ?
Ah, il a eu 17 ans il y a quelques jours et c'est toujours un jeune homme maintenant qui est connecté à la faune, à la flore, au sport et qui a un esprit libre, vraiment.
Restez avec nous, Perrine Crosmary, on va continuer à explorer le Zimbabwe dans un tout petit instant avec vous sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Nous sommes toujours au Zimbabwe, comme chaque jour, un grand voyage sur Europe 1 jusqu'à 18h. Et il m'est arrivé une histoire assez curieuse au Zimbabwe, toujours dans le cadre de cette relation un peu particulière qu'il y a là-bas avec les animaux. C'était dans un village en pleine brousse. J'étais en discussion avec un médecin guérisseur du village. Et il m'expliquait que sa spécialité à lui, c'était les babouins. Parce que le babouin, c'est un animal puissant, habile et qui se reproduit beaucoup. Donc il y a regardé avec beaucoup d'intérêt.
D'où sa spécialité.
Et il m'expliquait donc qu'on pouvait retrouver de la vigueur du babouin dans son urine.
Oh non.
Juste l'urine.
Alors je vais vous expliquer. Donc son job à lui, c'était entre autres d'aller récupérer de l'urine de babouin pour en faire un médicament. Donc je le suis. On part comme ça dans la brousse.
On vous imagine bien. Non, mais
c'est vrai, on part chercher de l'urine de babouin.
Vous distribuez des petites fioles aux babouins, quoi.
Non, on va chercher de l'urine dans le sol, par terre, ce qu'il en reste, parce que ça paraît quand même pas évident comme ça, parce qu'il fait très chaud, le sol est sec, donc je sais pas trop comment on va faire. Et lui, il va chercher sous les arbres que fréquentent habituellement les babouins. Donc, on regarde, on cherche. Je lui dis, mais enfin, comment on va faire pour trouver de l'urine qui est quand même depuis des heures dans un sol sec? Elle a forcément disparu. Et il m'explique qu'en fait, que quand ça sèche, ça fait un bloc solide qui se détache, un peu brunâtre. D'ailleurs, il me montre un arbre sur lequel il y a des taches brunes un peu fissurées. Donc, s'il y en a sur l'arbre, c'est qu'il doit y en avoir sous l'arbre. Parce que le babouin, quand il a besoin, il ne descend pas de l'arbre. Et c'est direct. Et donc...
Un système sanitaire, c'est pas mal.
Et donc, effectivement, on trouve dans le sol des petits blocs bruns, comme un peu de la terre agglomérée. Et il est ravi. Pour lui, c'est un trésor. Et il me dit texto, c'est super, il y a plein de nutriments dedans. Il y a plein de nutriments dans la semence de babouin. Et alors là, petit silence. comme maintenant, parce que il dit comment ça de la semence, parce que là jusqu'à présent on parlait de l'urine. Et là il prend un air un peu gêné et il m'explique que dans sa langue, l'urine et la semence masculine, c'est le même mot.
Ah bah c'est charmant.
C'est le même mot pour des raisons pratiques. C'est pour pouvoir parler de tout ça entre adultes devant les enfants. Et donc, on dit urine, mais enfin, chacun comprend. Et donc, je lui dis, donc en fait, ce que je viens de prendre dans mes mains, là, c'est de la semence de babouin séché. Et donc, ça fait un drôle d'effet, hein, je ne vous cache pas, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Et donc, je reste comme ça un peu suspendu.
Plus que suspendu, à mon avis.
Et je lui demande surtout comment est-ce que du sperme de babouin se retrouve là, au sol. Et là, il me répond, ben, parce que le babouin, je vous ai dit, il est sexuellement très actif. Et très souvent, il se fait plaisir tout seul sur l'arbre. Et ben voilà. Il y en a au sol.
Et donc, logique.
C'est logique. Donc, je suis un peu surpris. Et le guérisseur m'explique que tout ça est très sérieux et qu'il fait ses préparations à base donc d'urine de babouin, entre guillemets, qui sont très efficaces pour la virilité des hommes. Donc il me ramène à la maison et évidemment, il veut me faire essayer ses préparations. Donc, vu le contexte, c'était impossible de dire non. Et il me fait goûter. Et là, je vous avoue que j'ai quand même testé du bout des lèvres.
Oh non.
Parce que je connaissais un peu l'histoire, vous voyez. Donc, alors j'ai testé un tout petit peu, donc ça avait le goût de terre et de sable, hein, parce que ça avait traîné dans le sol, mais je ne suis pas allé très loin. Mais il était vraiment content que j'essaye pour que je puisse voir combien c'était efficace. Et là, je lui dis ok, je veux bien, mais si ça marche, là, je suis en voyage, je suis tout seul.
J'ai pas perdu, quoi.
C'est perdu, j'ai pas
vraiment... C'est gâché.
Toute cette énergie pour rien.
J'ai pas vraiment besoin. Et là, il me fait une réponse toute simple. Il me dit, bah, si ça marche, tu bois de l'eau.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures d'évasion avec Philippe Googler.
Voilà, j'ai bu un grand verre d'eau.
Vous en avez ramené aujourd'hui ?
J'en ai pas ramené, parce que je ne vous cache pas que c'est quand même un peu... C'est pas ragoûtant. Nous sommes en ligne avec Perrine Crosmary, réalisatrice de documentaires animaliers, qui a donc vécu au milieu d'un parc animalier avec son fils et son mari. Perrine, la relation avec les animaux est très très forte dans ce pays. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, quand on se promène là-bas, c'est les sons. Est-ce que ça vous a marqué, ça ?
Alors oui, c'est sûr que c'est marquant, puisque... alors bon, bien sûr, il y a les odeurs hein, aussi qui sont très 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 prenantes. Et les sons varient forcément en fonction du jour ou de la nuit, mais aussi des saisons. Et comme partout, hein, parce qu'il y a une saison d'hiver et une saison printemps et d'été, c'est ma saison préférée parce que c'est la période où il y a une explosion de vie. Et là, il y a des sons complètement improbables au cœur de la nuit. Moi, c'est ce que j'aime, hein, c'est surtout la nuit.
Ouais.
Parce que c'est un moment où on est dans le noir, on ferme les yeux et on peut vraiment apprécier les sons.
Quels sons, la nuit, par exemple, vous vous souvenez ?
Alors, un des repères hein, dans la brousse au niveau des vocalises, c'est la hyène tachetée,
ouais.
Elle parle beaucoup, elle communique beaucoup. C'est un des carnivores qui communique le plus. Hein,
je crois qu'on a un son de hyène tachetée pour vous.
Ah, alors il faut le mettre.
On va le mettre, on va écouter.
Ah oui, c'est exactement c'est ça. Ouais, c'est fabuleux.
Ah, c'est beau, hein.
Alors c'est beau, mais tout seul la nuit, face à ça, je suis pas sûr qu'on apprécie, si.
Ah, moi, j'ai justement tenté l'expérience jusqu'au bout. J'ai dormi au terrier des hyènes. Et ça a été... parce que moi, j'ai travaillé sur les hyènes tachetées. J'ai étudié leur squelette et je me suis intéressée aussi à leur comportement. Et j'adore les hyènes tachetées. Je les ai suivies longtemps. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas aller m'immerger avec une famille de hyènes. Enfin,
vous avez dormi avec des hyènes ? Comment vous avez fait ?
Alors en fait, tout le monde avait très peur parce que personne n'a vraiment fait ça. Je crois qu'il y a juste un gars qui l'a fait en Afrique du Sud. Mais j'ai construit en fait une cage de fer. et en imaginant, bon, parce que bon, elles ont quand même une mâchoire extrêmement puissante et elles peuvent être quand même assez dangereuses, on le sait tous, hein. Et j'ai construit cette cage de fer. Bon, faut dire qu'à l'époque j'étais un peu jeune et je me suis dit tiens, je vais le faire. Et puis je fais encore des choses un peu folles de ce genre-là, mais les hyènes, c'était un challenge. Et j'ai posé en fait mon affût à quelques mètres d'un terrier où j'espérais voir des petits. Et donc les femelles, elles disposent les petits en fait dans des terriers. Et donc je suis restée là, je suis rentrée dans mon terrier, j'ai fermé, enfin dans mon affût.
Dans
j'ai
votre cage, vous êtes mis dans une cage, c'est ça ?
Oui, une cage de fer. Et donc j'ai passé la nuit avec elle et mon mari et mon fils m'ont laissée là. Et j'avais un ranger qui avait tellement peur parce qu'il faut quand même que ce soit un peu cadré tout ça. Il m'a dit je reste près de vous. J'ai dit non, vous mettez à 100 mètres et vous fermez la radio jusqu'à 8 heures du matin. J'ai dit je veux. Toute seule.
Donc vous n'aviez pas moyen de communiquer avec qui que ce soit ?
Non, j'avais pas moyen de communiquer. J'avais confiance et puis ça faisait des semaines et des semaines que je les suivais. Qu'elles s'étaient habituées à mon odeur. J'avais dispersé un petit peu de mes pas de mon urine mais quasiment autour pour aussi qu'elles s'imprègnent de ma présence. Et en fait, je n'ai pas été attaquée par les hyènes mais par des fourmis.
Mais elles se sont pas approchées de vous les hyènes ?
Alors si, mais pas du tout. Pour moi, c'est ça qui est incroyable en fait, parce qu'elles étaient j'étais ni une menace, parce qu'elles ont vu que bon ben voilà, j'avais jamais attaqué leurs petits ni rien, ni une proie. J'étais là, comme un arbre peut être présent sur leur territoire, et elles se sont approchées, elles se sont grattées à l'affût, elles sont venues manger des os. Bref, je voyais pas très bien parce que c'était la pleine lune, et j'avais tellement peur de passer la main parce que je voyais rien. Donc, ce que j'avais laissé quand même, parce que je filmais à l'époque, et donc j'ai laissé quand même une ouverture, mais qui était vraiment grande, et une hyène pouvait passer la tête. Donc, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai pas dormi
la nuit.
Parce que
c'est un animal qui a une des mâchoires les plus puissantes au monde. Hein.
Tout à fait. Mais c'est rien passé. Ça a été extraordinaire. Et je l'ai renouvelé après plusieurs fois. Et après, elles ont dévoré mon.
Et donc, il y a des hyènes qui ont passé le nez, qui vous ont frôlé, qui.
Ah ouais. Bah, en fait, je sentais en fait parce que c'était quand même l'équivalent en fait en forme d'une tente quechua. Donc j'avais de l'espace pour moi, pour ma caméra et tout, et je voyais les ombres. Bien sûr, elles se frottaient, mais c'était pas pour gratter ou chercher à m'atteindre. Elles s'étaient simplement allongées contre l'affût et elles mangeaient des os.
Et ça sent très mauvais en plus une hyène, non ?
Alors c'est faux. J'ai déjà embrassé une hyène, ça ne sent pas mauvais.
Ah, vous embrassez les hyènes ?
Ah oui, sans scrupule.
Vous prenez bien la semence de babouin dans vos mains, vous ?
Exactement.
C'est pas faux. Restez avec nous, Perrine. On va continuer à raconter votre histoire au Zimbabwe, qui est assez incroyable, et puis à découvrir ce pays. On fait une petite pause avec Bob Marley et un titre qui s'appelle justement Zimbabwe.
Europe 1, Philippe Googler.
Nous sommes au cœur de l'Afrique, dans cette Afrique sauvage qui est une terre d'explorateurs et de personnages extraordinaires, et notamment le fameux docteur Livingstone, ma chère Nathalie.
Oui, alors vous connaissez tous hein, ce docteur Livingstone qui est le premier Européen à avoir fait mention des célèbres chutes Victoria en 1855. C'était un missionnaire, un explorateur, vous l'avez dit Philippe, anti-esclavagiste, ça c'est important, et puis c'est surtout un homme qui a cherché toute sa vie les sources du Nil. Eh bien cet homme merveilleux, considéré comme un héros en Angleterre qui est sa terre natale, avait disparu depuis exactement 3 ans et 8 mois, et un homme, un journaliste américain, nommé Henry Morton Stanley, s'était donné pour mission de le retrouver.
Ah oui, disparu, on n'avait aucune nouvelle.
Non, mais on savait plus ou moins qu'il se trouvait en Tanzanie. Alors, ce fameux Morton Stanley se rend à Ujiji, en Tanzanie, sur le lac Tanganyika, qui est un centre prospère de la traite des Noirs par les arabo-musulmans, pour essayer de retrouver notre Livingstone.
D'accord. Et il était certain de le retrouver vivant là-bas ?
Eh bien justement, pas sûr du tout. C'était un vrai défi en vue de, vous savez quoi, un scoop de journaliste. Alors, on savait que Livingstone était âgé, il avait 60 ans, ce qui était quand même assez considérable pour l'époque, et puis il était en mauvaise santé.
Et Stanley, d'où il venait ?
Eh bien, Stanley, lui, il a été envoyé par le directeur du New York Herald en Afrique pour retrouver coûte que coûte notre Livingstone. Mais son patron, le propriétaire du journal, n'était pas convaincu quand même à 100% de ce coup journalistique, donc il la chargeait d'un tas d'autres missions avant celle-ci, histoire de rentabiliser les frais de déplacement. Ouais. Donc Stanley accomplit d'abord un très long périple avant de gagner l'île de Zanzibar par l'océan Indien, qui est une étape importante du voyage. Puis en chemin, il va se trouver bloqué dans une guerre entre des commerçants arabes, un flibustier africain. Beaucoup de ces hommes succombent, il y a une mutinerie, il y a des tribus à payer, il va devoir affronter les crocodiles, la malaria, mais malgré cela...
Ah, c'était quelque chose le voyage à l'époque.
C'était autre chose. C'est il trace sa route. Hein. Et quand il parvient enfin à Oujiji, il aura parcouru plus de 3500 kilomètres en 411 jours. Et c'est là qu'il va prononcer la célèbre phrase « Dr. Livingstone, I presume ?»
Parce qu'il le retrouve.
Il le retrouve, absolument. Et il prononce cette phrase. Alors imaginez, on est vraiment au milieu de nulle part, au fin fond du monde. Et il y a ce flegme britannique, ou plutôt anglo-saxon, puisqu'il n'est pas, il est américain, hein, Stanley. Et il lui dit « Je présume que vous êtes le Dr. Livingstone. »
Après avoir affronté
c'est
tout
extraordinaire.
Toutes ces tempêtes. Non, c'est incroyable. Et il le retrouve, il le ramène en Angleterre ?
Non, ils vont juste faire un bout de chemin ensemble. En fait, ils vont naviguer un petit peu au nord du Tanganyika, mais ils vont être un peu plus proches qu'on ne le pense parce que Livingstone, il a des idées anti-esclavagistes, donc il est heureux de rencontrer le représentant d'un pays qui a émancipé les Noirs. Et puis Stanley, lui, il est fasciné hein, par Livingstone, c'est un mythe vivant, donc il rêve de le ramener à la civilisation, mais Livingstone, il refuse de rentrer. Et Stanley, quant à lui, reçoit un télégramme de félicitations de son patron qui lui dit ceci. « Vous êtes maintenant aussi célèbre que Livingstone puisque vous avez découvert l'explorateur avec mes remerciements et ceux du monde. »
Ah, pas mal. Et il a eu sa prime ?
Il a eu certainement sa prime, mais il n'a pas ramené l'explorateur.
Bon. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette histoire. C'est vrai que le docteur Livingstone, c'est un nom qui dit ça, qui dit quelque chose à tout le monde. Il y a même une ville qui s'appelle la ville de Livingstone, sur place, qui est de l'autre côté
des
de la
chutes.
Oui,
voilà.
Mais en Zambie.
Côté zambien.
Côté zambien.
Ouais.
Perrine Crosmary, vous êtes toujours en ligne avec nous. Oui. Je rappelle que vous êtes réalisatrice de documentaires animaliers, que vous avez vécu au cœur du parc de Wangé, au Zimbabwe, au milieu des animaux. On a parlé un petit peu, mais pas beaucoup encore, des habitants de ce pays, les je sais pas comment on dit, les Zimbabwéens. Vous avez vécu avec des ethnies locales. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ces gens?
Oui, alors nous, on était dans une zone qui s'appelle le Matabeleland. Donc, c'est à l'ouest, sud-ouest. C'est entre justement les chutes Victoria et Bulawayo. Et là-bas, il y a beaucoup d'ethnies. Enfin, il y a l'ethnie Ndébélé, surtout. Alors, il y a des Shona, mais ils sont plus au nord. Et donc, on était avec mon mari et mon fils, très proches de villages, de zones villageoises qui sont tout autour du parc. C'est des très beaux villages qui sont construits en fait en paille, ces petites cases rondes. Et elles sont faites aussi avec la boue rouge qu'on peut retrouver là-bas et de très beaux dessins parce qu'ils ont aussi une culture artistique qu'on retrouve aussi en Afrique du Sud qui est très très belle.
C'est vrai que chaque case est ornée de fresques, ouais, c'est assez chouette.
Des motifs
c'est
assez joli, géométriques d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons.
C'est exactement ça. C'est avec les couleurs de locales, de la terre, de l'ocre, du blanc, du noir, et c'est vraiment très très beau. Et donc, c'est des jolis villages. Les gens sont, c'est surtout rural, les gens ont un petit lopin de terre et ont des chèvres et des vaches. Ce qui a été très compliqué, parce que moi j'ai vraiment envie de parler de l'ADN de ces gens, c'est l'accueil et l'espoir. Parce qu'en fait, on le sait, le Zimbabwe a vécu une crise terrible en 2000. C'était un pays extrêmement riche, que de nombreux pays africains enviaient, et même qui avaient une éducation au-dessus de certains pays européens. Et à la crise de la réforme agraire en 2000, où des fermiers blancs ont été expulsés à la machette, certains ont été tués expulsés de leur terre. Le pays s'est écroulé économiquement, socialement, et ça il y a encore de nombreuses cicatrices encore aujourd'hui dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit des Zimbabwéens. Et pourtant, quand j'y étais, parce que c'était de 2006 à 2009, il y avait encore quand même cet espoir de renaissance de leur beau pays et puis un accueil vraiment des gens. Ils voulaient travailler parce qu'il y avait quand même, et c'est encore le cas aujourd'hui, entre 80 et 90% de chômage. Enfin, ça a vraiment complètement basculé avec cette histoire et avec cette réforme. Et pourtant, l'espoir est là. Il y a de très belles initiatives. sympathiques dans les villages. C'est des gens qui accueillent vraiment le monde et puis les expériences nouvelles, la permaculture aussi et la survie hein, dans ces zones arides.
C'est vrai qu'il y a une vraie envie d'aller de l'avant et on souhaite de tout notre cœur au Zimbabwe de sortir enfin de cette longue période noire.
Tout à fait, tout à fait.
Chelene Debele, si mes souvenirs sont bons, il y a un côté paisible. C'est que je pense que malgré la crise qu'il y a pu y avoir, ces gens ont gardé un côté paisible. Ce qu'on retrouve un petit peu moins quand même en Afrique du Sud, où c'est un peu plus tendu. Voilà, c'est mon sentiment.
Merci c'est vrai. Merci beaucoup, Perrine, de nous avoir raconté un peu, parce que là encore, on pourrait en parler pendant des heures,
hein,
du Zimbabwe. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Dans un tout petit instant sur Europe 1, on parlera de la cuisine du Zimbabwe. Encore un beau challenge pour Olivier Pouls.
Oui, pas si compliqué que ça, vous allez voir.
Vous allez nous éblouir.
Je vais essayer de vous mettre les papilles en émoi.
A tout de suite sur Europe 1. Et si on partait sur Europe 1, on parcourt les endroits les plus étonnants de la planète ensemble. Avec le côté saveur et Olivier Pouls, alors la cuisine au Zimbabwe, je suis impatient de vous dire, d'entendre ce que vous allez en dire. Moi, je n'ai pas des souvenirs émus, mais j'ai peut-être raté les bons plats.
Mais écoutez, j'ai eu la chance d'aller au Zimbabwe, j'ai plutôt pas trop mal mangé.
Ah ouais ?
Alors, bon, c'est une cuisine qui est évidemment aussi une cuisine d'influence, hein, de métissage. Les Anglais ont laissé une empreinte, alors vous me direz, la cuisine anglaise n'est pas forcément celle qui nous fait rêver.
Non.
Mais il y a aussi... des influences africaines. Et c'est une cuisine qui pourrait ressembler un petit peu à ce qu'on peut manger en Afrique du Sud, mais en moins riche quand même.
Ouais.
La cuisine sud-africaine, je trouve, est plus ouverte, mélange davantage de choses que le Zimbabwe. Au Zimbabwe, il y a quand même beaucoup de produits frais de qualité. Alors l'incontournable, c'est le sadza. Vous allez le trouver pratiquement partout. C'est un accompagnement. C'est une sorte de porridge ou de polenta, ou de polenta locale, hein, si on veut. C'est de la farine de maïs blanc qui est bouillie avec de l'eau et qui est vraiment la base de l'accompagnement de presque tout. Ça, vous aurez du mal à y échapper. Alors, c'est ni bon ni mauvais. Ça a l'avantage de caler un peu, voyez-vous. Alors, c'est pas extraordinaire
c'est bien
en goût, oui. Mais ça accompagne des choses qui peuvent être très intéressantes, comme les barbecues. Alors là aussi, on parlait de l'Afrique du Sud il y a quelques jours. C'est les spécialistes de la du barbecue, mais je peux vous dire qu'au Zimbabwe, ils savent faire de la braise aussi. Et autant vous dire que tout y passe. Hein. C'est le barbecue de la savane ou de la brousse, du koudou, de l'impala, de l'autruche, du crocodile. On mange du crocodile là-bas aussi. Je ne sais pas si vous avez goûté le crocodile.
Eh bien, jamais.
Jamais.
Non, vous avez goûté, vous ?
Oui, je l'ai goûté. C'est une chair qui ressemble...
Poulet.
On est un peu entre le poisson et le poulet, en fait.
Ah oui ?
C'est chair blanche. Ça n'a pas énormément goût.
C'est pas tellement goûteux.
Non, c'est pas désagréable.
Ça ne vaut pas le coup de se battre avec un croco.
Non, 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 prenez pas le risque.
Mais du jeune ou du vieux croco ?
Et prenez pas le risque de rentrer dans un combat pour le manger. C'est pas forcément le plus intéressant. Alors, il y a les bourgeois aussi. Alors ça, c'est bourg, ça veut dire
les paysans.
Les paysans, Worth saucisses, donc ce sont des saucisses paysannes.
C'est de la saucisse de paysan.
Non, pas de paysan, mais à la paysanne. Et ça, c'est très bon sur leur barbecue. C'est du bœuf avec des herbes, des épices et tout ça est plutôt goûteux.
Ouais.
On trouve du poisson dans les lacs et les rivières, et notamment de la brème ou de la truite.
Ah.
Il y a une très belle, de très beaux viviers de truites là-bas, la truite de Linyanga, qui est très réputée, qui est très, très goûtue. Très goûteuse.
Bon.
Et alors, en dessert, vous allez manger des mapoto.
Qu'est-ce que c'est
des petits bonbons de papaye.
Ah, je ne me souviens plus du tout de ça.
Ouais, c'est à base de jus de papaye. On rajoute du sucre, on fait confire,
une confiserie,
tout ça.
Alors.
C'est une confiserie. Ouais. Et c'est un petit dessert.
Et vous avez mangé des trucs bizarres ?
Alors, je n'ai pas mangé, j'ai regardé ce qu'on appelle les mopanes. C'est des chenilles, en fait.
Ah, Jean-Bernard, vous connaissez évidemment.
Je l'ai vu aussi, j'ai pas osé. Je me suis pas risqué.
Bah, on est moins aventurier que vous sur le terrain.
Sort de la flamencuche, il n'y a plus personne.
Non, mais Philippe, on sait que vous aimez bien les abdomens d'insectes
en
particulier.
Non, mais vous oubliez ma grande leçon. C'est pas parce que c'est moche que c'est mauvais.
Oui, c'est vrai. Bah, en tout cas, c'est très culturel parce qu'il n'y a pas de raison que ces chenilles ne soient pas bonnes. Vous m'en proposeriez là, je pense que je les mangerais. À l'époque, je n'ai pas goûté. Donc, c'est des chenilles, c'est très riche en protéines. Ouais. Elles sont séchées au soleil et puis elles sont frites. Et on mange ça comme ça, un peu comme des chips.
Des tapas.
C'est comme des tapas.
Ouais.
Et puis, on trouve le biltong aussi, dont on parlait en Afrique du Sud. Là aussi, c'est de la viande épicée, séchée au soleil.
Mais que les gens transportent dans leur poche et tout. Là, en revanche, ça, j'y vais pas trop.
Bon, si c'est que dans leur poche. poche, ça.
Non, mais c'est vrai, c'est, je sais pas, la conservation, c'est toujours un peu...
Et puis un petit peu de vin aussi.
Oui, ouais, oui, quand il y a du vin au Zimbabwe.
Alors, il n'y en a plus beaucoup. Il y a eu une tradition, c'est un petit reste, une tradition qui remonte à 1890, qui a failli disparaître. Le contexte politique difficile a fait péricliter la grande majorité des domaines. Il y en a eu un moment, hein, dans les années 60. Et puis, aujourd'hui, il subsisterait une ou deux caves seulement. Il y a un endroit qui s'appelle le Bushman Rock Safari Wine Estate.
Pas mal.
Et qui combine safari, culture de la vigne, et vous pouvez voir des animaux en dégustant des vins. C'est 12 hectares seulement, donc autant vous dire, c'est vraiment pas beaucoup. Mm-hmm. C'est un petit reste de ce qui reste de la production viticole au Zimbabwe, mais elle est nettement moins intéressante qu'en Afrique du Sud, c'est faut bien le dire.
D'accord.
Et puis je voudrais terminer par... je ne vais pas rendre un petit hommage ou apporter un petit rectificatif, faire un petit
mea culpa. Bêtise.
Non, pas tout à fait. Mais vous savez, il y a quelques jours, on a parlé de la Roumanie, oui. On a parlé des vins roumains en disant que ce n'était pas terrible.
Vous avez dit aussi que la nourriture n'était pas terrible.
Et on a aussi dit que la nourriture n'était pas forcément ce qu'il y avait de meilleur.
Alors,
on a reçu un petit mot fort sympathique de l'ambassadeur de Roumanie en France qui a joint à ce mot deux bouteilles de vin. Et je vous propose de déguster, pour réhabiliter le vin roumain, de déguster ce vin blanc sec qui s'appelle Cervé, c'est la cuvée Clémence. C'est une association de deux cépages, du chardonnay plus un cépage typiquement roumain. Eh bien, je dois dire que c'est pas si mauvais que ça.
C'est vrai, il est pas mal du tout.
À la santé de l'ambassadeur.
À la santé de la
réhabilité.
Roumanie.
Et à la Roumanie.
Voilà. Et à la Roumanie.
Très bien. Merci pour ce mea culpa, très honnête, très droit, écoutez, très juste.
J'aurai grand plaisir à rectifier tout ce que... Si tous les ambassadeurs de tous les pays dont nous avons parlé durant cet été veulent nous faire parvenir des produits,
je crois
des
qu'il y a
vins,
un appel
etc.
qui est lancé, là.
C'est un appel de phare, là.
Jean-Bernard, le Zimbabwe... Comment vous l'aborderiez, vous, pour y voyager ?
Écoutez, moi, les chutes Victoria, le souvenir que j'en ai, ça remonte, c'est dans les années 90, c'est synonyme de sensations fortes pour moi. À l'époque, j'étais jeune, donc je me suis permis des choses. Merci, c'est gentil, Philippe. Mais à l'époque, je me suis permis une chose incroyable qui existe encore aux chutes Victoria. C'est le saut à l'élastique au-dessus du Zambèze.
Ouf.
C'est l'un des sauts à l'élastique les plus impressionnants au monde, depuis le pont métallique qui enjambe le Zambèze au-dessus des gorges.
Sur lequel passe un train magnifique.
Sur lequel passe un train magnifique, exactement. Il y a une plateforme qui a été aménagée, il y a une société qui s'est installée là et qui propose ce saut. Et je l'ai fait à cette époque. 111 mètres de chute, 3 secondes de chute libre. Et vous rebondissez ensuite comme une espèce de yo-yo pendant plusieurs dizaines de secondes.
Au-dessus des chutes.
Au-dessus des chutes. À côté des chutes du Zambèze, mais au-dessus du Zambèze, et le fleuve Zambèze à quelques 10 mètres en dessous de vous, de votre tête, c'est un souvenir. Là, au moment où je vous le raconte, j'ai le souvenir qui est en moi. Voilà. Ça reste vraiment gravé jusqu'à la fin de vos jours.
Ça conserve la semence de babouin. Hein.
Alors, une autre expérience aussi à vivre, c'est là, je ne l'ai pas
fait. Pour ceux qui n'osent pas faire le saut à l'élastique,
alors,
je peux vous dire.
Mais qui vole un peu d'adrénaline.
C'est juste une petite parenthèse. Oui. Et sur le même pont, il y a aussi un train un peu luxe où vous pouvez boire une petite coupe de champagne au même endroit au-dessus des chutes sans faire le yo-yo.
C'est chacun choisi.
Je pense qu'à l'âge que j'ai maintenant, c'est plutôt vers ça que je vais m'orienter pour mon prochain voyage. Il y a quand même aussi une autre expérience à vivre aux chutes Victoria pour les gens qui veulent un petit peu d'adrénaline, mais cette fois-ci au ras de l'eau. Eh ben c'est le rafting, parce que là aussi, le Zambèze, à côté des chutes, est l'un des sites mondiaux les plus réputés pour la descente en raft, parce qu'effectivement, il y a des rapides à ce niveau-là, c'est très impressionnant, et des rapides de niveau 4, donc ça veut dire que c'est très engagé. Donc vous flottez comme un bouchon là-dedans sur votre raft, sur 15, 20, 30 km, ça prend toute la demi-journée. Vous sortez de là, vous êtes essoré, rincé, mais vous avez vécu une expérience géniale. A priori, vous ne rencontrez pas trop de crocodile, paraît-il.
Donc si on veut faire ni yo-yo ni bouchon, vous avez une version plus soft.
Ah bah la prochaine fois que j'y retourne, ça sera le survol des chutes en hélico ou en petit avion. Ça coûte à peu près 150 €. Ça reste relativement abordable. Et là, vous avez les chutes. Ce que vous avez dit, ce rideau d'eau, cette espèce de mousse.
On voit des dizaines de kilomètres.
Cette espèce de mousse qui flotte, cette brume chargée de gouttelettes tout autour des chutes. Vous avez ça, et puis vous voyez tous les forêts, tous les méandres du fleuve.
Ça, à faire en avion, c'est une expérience aussi
grandiose. Ce qui est incroyable, c'est quand on se balade même à des centaines de mètres, on est trempé. Oui, on est mouillé tout le temps partout.
C'est impressionnant.
Oui, tout à fait. Si je peux me permettre une petite réserve, mon cher Jean-Bernard,
Dites-moi, une fois,
c'est que les avions et les hélicos en rotation permanente au-dessus des chutes,
c'est une nuisance.
C'est un peu une nuisance parce que quand vous baladez le long du Zambèze et que vous cherchez le calme de la savane, ça, et que vous avez ces bruits de moteur au-dessus de la tête, c'est pas toujours top.
Alors ça dépend où vous vous situez, parce que s'il y avait le bruit de la cataracte,
mais ça c'est tout près. Mais si on est un petit peu en retrait.
Je suis d'accord avec vous. Voilà. C'est un inconvénient.
Côté safari, il y a des choses que vous nous conseillez ?
Le fameux Wangi dont notre invité a parlé, ça c'est vraiment le parc qu'il ne faut pas louper. C'est à 180 km des chutes de Victoria, donc ça se combine très très bien. Et pourquoi on y va dans ce parc ?
Pour les éléphants.
Pour les éléphants, pardon. Il y en a 40 000 ouais. Bon, c'est une estimation, mais pour vous dire, on est sûr de les voir. De juin à octobre, comme la savane, le bush est assez sec, il n'y a pas beaucoup de végétation, pas beaucoup de verdure, une visibilité maximale est autour des 60 points d'eau de ce parc. Vous en verrez des dizaines et des centaines. Ouais. C'est vraiment impressionnant. L'idéal, évidemment, c'est de se faire accompagner par un ranger, un guide. Vous aurez bien plus de chances de les voir, parce que les chercher, ce n'est pas aussi facile que ça non plus. Il faut bien connaître les endroits où ils se réunissent pour s'abreuver. Et puis aussi, ils pourraient même faire un safari à pied dans le Wangi avec les rangers. Et là, vous serez vraiment complètement immergé. Surtout même à la lumière de la lune, il y a des safaris nocturnes. Ça, c'est une expérience inoubliable parce que la vie sauvage est très différente la nuit. Les sons également sont très différents.
Ouais. Un petit conseil moi, que je donnerais aussi, c'est que vous pouvez faire aussi une balade sur le Zambèze en bateau, tranquillement.
Tout à fait.
C'est un fleuve magnifique, exactement, dans le calme, dans le silence. Et vous apercevez les éléphants, les animaux qui viennent boire sur la rive le soir. Et ça aussi, c'est magique.
C'est pas périlleux, ça.
Non, parce que vous êtes sur l'eau, vous êtes à l'abri de tout. Et le spectacle est splendide.
Alors justement, le Zambèze, parlons-en, parce que vous avez parlé de la descente du Zambèze avec un canoë. C'est effectivement une prestation qui se fait. Là, c'est une immersion complète avec les guides, avec bivouac tous les soirs au bord du fleuve. Mmh. Vraiment impressionnant.
C'est pas forcément canoë, hein, ça peut être un bateau confortable.
Ça peut être un bateau confortable. Alors, moi, ce que j'ai vu, les gens qui l'avaient fait sur place, c'était plutôt du canoë. Ouais. C'est l'option un petit peu plus rustique. Là, vous êtes tout près des éléphants et des hippopotames dans le fleuve. Je peux vous dire qu'à quelques mètres, vous vous emmenez pas large.
Surtout les hippopotames.
Ça me fait peur, cette bestiole. Je me suis déjà fait charger au Rwanda par cette bestiole. C'est impressionnant. Ouais.
Qu'est-ce que vous lui aviez fait, cette hippo?
Rien. Il était à côté d'une mare. On est passé avec le 4x4 tout près. On l'a dérangé. Il a chargé. Mais ça charge, en fait, à une vitesse de dingue. Ça a l'air complètement pâteau comme animal, mais pas du tout. C'est hyper rapide, hyper puissant, hyper véloce.
C'est vrai. C'est effrayant.
Effrayant, voilà. Alors, pour les voir, ces fameux hippopotames, il y a le parc des Manapools qui se trouve justement le long du Zambèze. Parce qu'on peut les. On y vient aussi pour les voir. Et au parc de Manapools, alors on y vient pour les hippos, mais à côté, il y a plein de campements. Et le souvenir que j'ai de ce parc, alors c'est pas les hippos, c'est que dans les campements, ils sont pas clôturés. Donc vous avez toute la faune qui peut traverser. Je me souviens, j'étais avec ma compagne à l'époque, on avait dormi dans ce bungalow. Et le soir, à la terrasse, il y a un éléphant qui est passé à 2 mètres. On l'a pas entendu, il est passé juste à côté du bungalow. Quand je dis 2 mètres, c'est vraiment là vous êtes à côté de moi, Olivier Pouls. L'éléphant est passé exactement là vous êtes à côté de moi dans ce studio. On ne l'a pas entendu venir. C'est pour vous dire, une masse de plusieurs tonnes dans ces campements, vous ne l'entendez pas venir.
Et pourtant,
elle passe à côté de votre terrasse. Ça, c'est,
et vous n'avez pas eu peur?
Si, mais en fait, on est tellement sidérés qu'on oublie presque la peur.
Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes resté là?
On est resté, on était bouche bée. J'ai essayé de prendre quelques photos. Mais franchement, c'est magique.
C'est marrant parce que moi, j'aurais un éléphant à 2 mètres de moi, je ne penserais pas à prendre des photos.
Vous ne bougez pas en fait. Vous êtes là, vous êtes pétrifié. Vous êtes pétrifié. Vous observez l'animal qui se fiche pas mal de vous d'ailleurs. Il traverse le campement, il a ses habitudes. Mais voilà, il ne faudrait peut-être pas s'interposer.
Merci beaucoup Jean-Bernard pour tous ces petits tuyaux pour découvrir le Zimbabwe qui est un pays magnifique, vraiment. Merci beaucoup d'avoir voyagé avec nous aussi loin. Demain, nous allons repartir. Et alors, la destination va être très différente. C'est un des pays les plus sympas d'Europe. Un pays, mon cher Olivier, que vous aimez beaucoup. Le pays des villes flamandes romantiques, comme Bruges, la Venise du Nord. C'est le pays de Bruxelles, la capitale.
C'est le plat pays qui est le mien.
C'est le plat pays qui est le vôtre. Capitale de la frite également, la Belgique.
On va bien manger,
on va bien rigoler. Et en première heure, de 16h à 17h, nous irons à La Réunion, l'île intense, au relief incroyablement tourmenté, le pays du piton, de la fournaise et des vallées perdues. Tout cela donc demain entre 16h et 18h. Dans un tout petit instant, le grand journal du soir avec François Claus. Bonsoir François.
Bonsoir mon cher Philippe. Je me réjouis déjà, Lionel Gougelot à mes côtés, également l'homme du Nord, de partir demain du côté des Flandres avec vous. Merci. Merci encore pour ce beau voyage.
Merci François, demain ça va être très beau et bon demain soir.
J'essaie de goûter le crocodile avec le bracelet de ma montre depuis une demi-heure, depuis que vous en avez parlé, mais j'ai toujours pas compris quel
pas,
goût ça avait.
Il faut le faire cuire plus longtemps.
Ah voilà, oui peut-être. Allez, mélange de poulet et de poisson, j'ai compris. Bon, allez, bonne soirée et de nouveau bon voyage demain.
Merci, à demain.